Salut frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais vous inviter à faire une première lecture dans Habacuc chapitre 2. Habacuc chapitre 2, il est dit ceci au verset 1er. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira, c'est-à-dire ce que Dieu me dira, et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision. » Dans d'autres, il dit « une prophétie. » « Grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une vision ou une prophétie dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Amen. Une deuxième lecture, s'il vous plaît. Dans Actes au chapitre 1er, et le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Amen. Et enfin, je voudrais vous inviter à prendre avec moi dans le livre de Ruth, au chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er, voilà. Nous lirons quelques versets. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne ou dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Le nom de sa femme, Naomi ou Noémie, et le nom de ses deux fils, Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis, Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première est Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Amen. En préparant cette prédication, c'est parce qu'on racontait l'histoire avec les enfants du couple frères et sœurs chez qui nous habitons. Et ça m'a amené à réfléchir. Et pendant que je racontais cette histoire aux enfants, alors j'ai fait quelques recherches sur les noms. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire de Ruth, on peut se dire que vraiment cette histoire, ce livre de Ruth, c'est le livre de la rédemption. Voilà. C'est l'histoire de la rédemption. Une famille va donc quitter Bethléem en raison d'une famine qui arrive sur ce pays. On réalise dans la lecture, pour ceux qui lisent, que finalement, ça n'a pas apporté bénédiction de quitter ce lieu, puisque le mari Élimélec est mort, et les deux garçons sont morts également. Naomi va donc se retrouver seule. Juda signifie que Dieu soit loué, qu'il soit loué. Et Bethléem signifie la maison du pain. L'autre nom de Bethléem, c'est Éphrata. ce qui veut signifier lieu de fécondité. Et Élimélec veut dire l'Éternel est mon roi. Ou mon roi, c'est l'Éternel. Naomi veut dire ma gracieuse. Quelqu'un de gracieux ou de gracieuse, c'est quelqu'un qui véhicule la grâce. Et on dit c'est quelqu'un qui est gracieux. Maclon veut dire maladif. Kilion veut dire qui languit. En quelques mots, qui ne se contente pas de la situation présente, mais qui voudrait autre chose que ce qu'il vit actuellement. Ainsi, frères et sœurs, après ces quelques noms et leur signification, nous pourrions dire que cette histoire se passe dans le pays où Dieu est loué et glorifié, Juda. Et plus précisément, dans un village qui est vraiment béni et fécond, Bethléem et Ephrata, où il y a toujours eu du pain, c'est-à-dire à manger. Bref, il y avait là tous les ingrédients pour être heureux. Là habite une famille, le père est un sujet du roi, Élimélec, l'Éternel est mon roi. Et sa femme est gracieuse du fait que Dieu a béni cette contrée, il y a la grâce qui coule de ses habitants, et en particulier de cette femme. Ils avaient deux enfants, dont l'un est souvent malade, et l'autre qui languissait après autre chose. Malgré qu'ils habitassent dans un lieu béni de Dieu, eh bien, nous venons de lire que dans ce lieu arriva la famine. Ceci nous fait penser à une autre histoire, celle du commencement de l'humanité. Dans le jardin d'Éden, qui veut dire plaisir, délice, jardin de plaisir et de délice, Dieu avait tout créé pour le bien de l'homme. Adam et Ève avaient tout ce dont on pouvait désirer ou avoir besoin pour être heureux. Tout était parfait, avec un environnement des plus agréables. Dieu y est le roi. Il y avait une relation étroite entre Dieu et sa création, et en particulier sa créature, Adam et Ève. Mais, dans ce lieu, arriva le diable. Frères et sœurs, le psaume 37, je vais le lire pour vous, nous dit ceci, au verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Frères et sœurs, ceci pour nous amener à comprendre ou à réaliser. En tout cas, je voudrais, frères et sœurs, au travers de ces quelques instants, partager avec vous quelques pensées de la parole de Dieu, afin que ensemble nous soyons encouragés à ne jamais quitter la maison de Dieu, la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. Et les deux premiers passages que j'ai lus tout à l'heure, c'est parce que quand j'ai préparé ce message, c'est pas toujours comme cela, mais j'ai eu l'impression, mais ce n'est qu'une impression, que quelqu'un, un ou une, voudrait quitter l'Assemblée et qu'au travers de ce texte, je voudrais l'encourager à ne pas quitter l'Assemblée. Si c'est votre cas, je vous prie, je ne sais pas quelle est votre situation ni ce que vous traversez ou pourquoi, mais je vous prie de rester. Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu prépare. C'est pour ça que je l'ai lu avec vous tout à l'heure, Habacuc chapitre 2, et dit « Si la vision ne s'accomplit pas, attends-la. Et si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira en son temps, elle ne sera pas différée. » Et tout à l'heure, quand j'ai entendu le frère Norbert nous introduire par Actes chapitre 1er, ça m'a percuté ce passage où, dans Actes chapitre 1er verset 4, où le Seigneur va dire à ses disciples, « Ne quittez pas Jérusalem, attendez la promesse que le Seigneur a promis. » Frères et sœurs, je crois que Dieu met à notre disposition tous les éléments qui sont nécessaires à notre bonheur. Mais il faut que Dieu reste roi. Première chose. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il a donné cette recommandation, outre le fait de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, cultivez et gardez. Ça veut dire, frères et sœurs et amis, qu'il faut cultiver le fait que Dieu soit le roi de notre vie. C'est important. Parce que si à un moment donné, des situations peuvent arriver dans notre vie, eh bien, si nous ne cultivons pas ce fait que Dieu soit le roi de notre vie, nous risquons de nous éloigner et de perdre la grâce de Dieu. Et garder, c'est veiller. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et si le Seigneur a dit à Adam et Ève de garder, ça veut dire qu'il y a un ennemi possible. Il fallait le garder. Garder contre qui? Parce qu'il y avait un ennemi. C'est quelque chose que, en première lecture, on se pose la question, garder contre qui? Nous comprenons lorsque nous arrivons au chapitre 3 de la Genèse. Frères et sœurs, si nous remplissons ces conditions, alors nous allons vivre cette promesse que Dieu donne, qui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve ou de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dira, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole. Et il va dire que celui qui met en pratique la parole est semblable à celui qui a construit une maison sur le roc. Il a creusé profondément et il a posé ses fondements profondément. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais nous recommander de ne pas nous éloigner de Jérusalem, de ne point nous éloigner de la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. Comment se fait-il qu'Élimélec et sa famille ont-ils quitté ce pays que Dieu a béni? Comment se fait-il qu'ils ont fait des centaines de kilomètres pour aller à Moab? Moab se trouve à environ 800 kilomètres. À pied, je vous prie. Ou à Dodan. Peut-être, mais la Bible ne nous le dit pas. Mais je suppose qu'ils ont entendu que là-bas, il y a de quoi manger, de quoi se nourrir, etc., etc. C'est pour dire ceci, frères et sœurs. Je voudrais dire encore que lors de la résurrection de Christ à Jérusalem, deux disciples, ceux d'Emmaüs, ont quitté Jérusalem au moment où ils sont en train de vivre la résurrection. Ils ont pris la direction opposée, découragés, abattus par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Il a donc fallu que le Seigneur aille à la rencontre pour les ramener à Jérusalem. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire que Sainte-Agne est la cité de la paix, ou qu'elle est la maison du pain. Mes frères et sœurs, je voudrais simplement dire que de nous encourager à ne pas nous éloigner de la présence de Dieu. On peut entendre ceci ou cela, ici ou là, mais ce qui doit importer dans notre vie, c'est que Christ demeure le roi de notre vie. Et si Christ est roi dans notre vie, et que la famine arrive, croyez-moi, le prince et le roi de ce pays ne manquera pas de pourvoir aux besoins de ses habitants. Alléluia. Oui. Christ est roi. Christ est Seigneur. Et Christ est celui que nous avons entendu dans les chants, qui est la source de la grâce et de la bénédiction. Alléluia. Nous voyons également, frères et sœurs, que entendre les choses qui se passent ailleurs ou porter ses regards ailleurs peuvent être dommageables pour notre foi. Par exemple, le choix de Lot vers Sodome et Gomorrhe. Il nous est dit ceci. Après que Abraham lui ait dit, nous sommes frères, il n'est pas bien que nous ayons des querelles l'un avec l'autre. Choisis donc, soit d'aller à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot, qui est le neveu d'Abraham, eh bien, la Bible nous dit, Genèse chapitre 13, verset 10, je vais le lire pour vous. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel lui détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voyez-vous? Comme, ça ressemble, mais ce n'est pas. C'est une copie, mais ce n'est pas la réalité. Des mauvais choix peuvent apporter dans notre vie des conséquences gravissimes et catastrophiques qui auront des conséquences dans les jours, les mois, voire les années qui viennent. Vous comprenez, frères et sœurs, que Moab, c'est la conséquence du choix de Lot. Moab, c'est le fils de la fille aînée de Lot, que la fille aînée de Lot a eu avec son père. Voici donc pourquoi, le pourquoi du fait qu'il n'aurait jamais dû aller à Moab. Parce que à Moab, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Malgré certainement ce qu'ils ont pu entendre ou ce qu'on leur a rapporté. La bénédiction est à Bethléem, en Juda, à Éphrata. Et particulièrement, quand Dieu est roi de notre vie, Élimélec, et que la grâce de Dieu abonde en nous, et que par le fait de l'abondance de la grâce de Dieu, nous dispensons également cette grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons également dans l'exemple du fils prodigue. Le père avait deux fils et le plus petit, le plus jeune, dit « Papa, je suis majeur, je ne veux plus être commandé, j'ai envie de vivre autre chose, autre expérience, je voudrais que l'héritage qui m'est réservé me revienne maintenant. » Le reste, la Bible nous le dit, frères et sœurs, que cela n'a pas été une bénédiction. Il a dépensé tout ce qu'il avait et il s'est retrouvé dans la famine jusqu'à nourrir les cochons et vouloir manger de la nourriture des cochons. Je ne sais pas si vous élevez les cochons, mais ça ne donne pas tellement envie de manger la nourriture des cochons. Mais là, le choix d'Adam et Ève, frères et sœurs, nous continuons, le monde continue d'en subir les conséquences. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce que par son sacrifice à la croix, il a brisé le pouvoir de la malédiction et il nous dispense la grâce et la bénédiction, le pardon de nos péchés. Alléluia. Le choix d'Élimélec et de Naomi va les conduire au pays où règne la mort. Parce que dans le pays de Moab, ils ont un dieu auquel on sacrifie les enfants. Vous comprenez les conséquences graves d'aller dans ce lieu où Dieu n'y est pas et où le prince de ce monde règne et où règne la mort. Élimélec est mort en premier. Dieu n'est plus roi. On manque de ce besoin de chercher Dieu. On manque de, ce n'est plus comme un besoin profond de dépendre de Dieu. C'est quelque chose qui peut se faire au fil de plusieurs années. Voyez, tout doucement, on ne vient plus aux réunions, ou à la maison, on ne lit plus sa Bible, on ne prie plus, on est en train de décliner. Et puis on ne vient plus aux réunions pour telle ou telle raison, et puis après on ne vient plus du tout. Mort des enfants, conséquence, plus de descendance, plus d'espérance. Frères et sœurs, mais encore plus, perte de trois maris. Trois femmes se retrouvent veuves. Naomi, qui s'appelait Gracieuse, va dire, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, qui signifie amère, amertume. Elle qui était abondante en grâce et qui dispensait, qui respirait la grâce, elle respire l'amertume. Et du fait qu'elle est tellement remplie d'amertume, eh bien, elle va décourager une de ses belles filles. Vous comprenez? Elle qui autrefois a donné certainement des paroles d'encouragement et de grâce, maintenant ce sont des paroles de découragement. Et en plus, elle dit, elle croit que Dieu est devenu son ennemi. C'est bizarre, comme parfois quand on rencontre ceux qui étaient engagés avec Dieu et qui ne le sont plus, combien beaucoup accusent Dieu. Et c'est le cas de Naomi. Elle va dire ceci, j'étais dans l'abondance au moment de mon départ, mais pourquoi donc est-elle partie? Elle avait tout à sa disposition. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Frères et sœurs, tout choix a des conséquences. Je voudrais, au travers de ceci, de cette histoire, nous inviter, nous encourager ensemble, quoi qu'il arrive, à demeurer dans la maison de Dieu. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'Église, frères et sœurs, à faire face avec la grâce de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu et Dieu qui est au milieu de son Église. Mais il y a aussi un autre aspect de la chose. C'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est nous qui apportons la vie également au sein de l'Église. L'Église sera ce que nous sommes. Si nous sommes remplis d'amertume, nous allons produire de l'amertume. Mais si nous sommes remplis et débordants de la grâce de Dieu, frères et sœurs, l'Église abondera de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur n'œuvre pas dans les organisations, les bâtiments ou quoi que ce soit. Non, il œuvre dans l'homme et il a fait de nous, il a fait de toi, il a fait de moi son habitation. Alléluia. Frères et sœurs, comme ce dernier chant, entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre, la Bible nous dit que la voix de Dieu a parcouru le jardin. Ouais, c'est ça, je crois que depuis cet instant, depuis ce moment, la voix de Dieu n'a cessé de parcourir le monde. Et il dira, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'au temps marqué, Christ nous a rachetés. Alléluia. Nous ne sommes plus sous le pouvoir de la condamnation, mais nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. Il nous suffit simplement d'accepter, d'accueillir et de reconnaître que nous avons vécu loin de Dieu, nous avons été rebelles, nous avons rejeté Dieu. Mais qu'au contact de sa parole, nous voulons entrer dans le temps de la grâce. Nous voulons entrer en possession de l'héritage que Dieu nous donne et qu'il a préparé pour nous. Mon frère, ma sœur, mon héritage, ce n'est pas le tien. Et ton héritage, ce n'est pas le mien. Et Dieu ne partagera pas ton héritage pour donner à quelqu'un d'autre. Non. Mais il te faut entrer en possession de l'héritage que Dieu te donne. Et pour cela, reste en Juda où Dieu est loué et adoré. Reste à Bethléem, la maison du pain. Reste à Ephrata où c'est là où il y a la fécondité. Dieu est en train d'agir. La Bible nous dit, en ce qui concerne Naomi, qu'elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Là-bas, au pays de Moab, où elle a perdu son mari, où elle a perdu ses enfants, elle entend la voix de Dieu qui lui dit, retourne. Parce que de là où tu es venu, il y a la bénédiction qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Oui. Dieu nous cherchera toujours. Et il continuera de nous chercher, même jusqu'au moment extrême. Parce que Dieu nous aime et parce que Dieu a déjà accompli ce qui nous est nécessaire pour nous réconcilier avec lui. Le fils prodigue nous dit ceci, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Vous croyez que l'idée lui est venue comme ça? Je crois que l'Esprit de Dieu lui a rappelé que tu es en train de mourir dans la misère. Mais là-bas, à la maison du Père, il y a ce qu'il faut. rentre en toi-même. Et je voudrais te dire de la part de Dieu que si tu restes là où tu es, tu vas continuer de mourir de faim. Alors que dans la maison du Père, il y a de l'abondance. Alléluia. Et cette abondance nous est destinée, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, le choix est important. Orpa va être conditionnée par les paroles de Naomi. L'amertume. Alors elle va retourner dans sa famille vers ses dieux, qui est le dieu de la mort. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Orpa. Par contre, Ruth va dire, je choisis de venir avec toi. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je voudrais nous encourager cet après-midi à faire le bon choix. Il ne faut pas trop tarder non plus. Hein? Voilà. Parce que l'instant dont nous disposons, c'est maintenant. Tout à l'heure, nous n'en disposons pas encore. Et la Bible nous dit dans Hébreu, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans les psaumes ou dans David, si longtemps après, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Naomi, quand elle a entendu que Bethléem est en train de vivre la bénédiction, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Il dit ceci, elle se leva afin de quitter le pays de Moab. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Elle se mit en route pour retourner. Alléluia. Il faut se lever. Il faut quitter. Il faut sortir de là où tu te trouves et te mettre en route. Cet après-midi peut être le commencement d'une aventure formidable avec Dieu. Lorsque nous sommes en route pour avoir pris une décision en ce qui concerne le fait de retourner vers Dieu, la Bible nous dit ceci, en ce qui concerne le fils prodigue, qu'il était encore loin. Il n'y avait pas de longue vue encore à ce moment-là. Que son père, malgré certainement ses habits sales, déchirés, etc., il l'a reconnu. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit. Attends. Il a dépensé. Il va m'entendre. Non. Il a couru vers lui et l'a embrassé. Et il l'a rétabli dans sa position de fils. Frères et sœurs, Christ a donné sa vie afin que nous devenions fils de Dieu, filles de Dieu, membres de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Alléluia. Par le fait que Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. La Bible nous dit que Dieu, il a préparé les choses. Quand ils sont arrivés à Bethléem, c'est en quelle période? Alléluia. C'est au temps de la moisson. Hein? Pour moi, Dieu, il prépare les choses. Et là, il y a un champ qui appartient à quelqu'un. Qui s'appelle Boaz. Hein? La signification de Boaz, en lui est la force. Et c'est justement Boaz qui a pouvoir et droit de rachat sur ce qui appartient à Élimélec et sa famille. C'est-à-dire que Boaz, c'est le rédempteur. C'est lui qui va racheter et qui va rétablir. Vous voyez? Voilà. Dans le mot rédemption, il y a le fait de rachat de la dette, mais il y a aussi il y a cet aspect de renaissance, de vie nouvelle, si on peut dire comme ça, quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que non seulement il rachète, mais il y a une espérance nouvelle qui naît. C'est une autre vie, c'est une autre étape. Ce qui était avant n'est plus. Maintenant, on entre dans le temps de la rédemption. Nous sommes justement dans le temps de la rédemption que Dieu a ouvert il y a 2000 ans au travers du sacrifice de Christ. Alléluia. Et parce que Ruth a choisi de suivre sa belle-mère et d'entrer à Bethléem et de faire de l'Éternel son Dieu, elle est devenue une des ancêtres de Christ, une des femmes qui sont citées dans la généalogie de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons tous une destinée particulière avec Dieu. Nous n'imaginons pas les conséquences à venir du choix, du fait que nous choisissons de marcher avec Dieu. Il y a des conséquences extraordinaires. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que nous avons choisi d'accueillir Dieu et d'obéir à Dieu. Alléluia. Et on va dire concernant Ruth qu'elle va hériter des promesses de la parole de Dieu. Je n'ai pas assez de temps pour développer tout ça, mais c'est pour dire que Ruth a fait le bon choix. Naomi a fait le bon choix. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Ô Dieu de grâce, toi qui as ouvert ce temps de grâce, tu as fait en sorte, Seigneur, que ta voix parcourt toute la terre et vienne jusqu'à nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as disposé notre cœur à l'écoute de ta voix, de ta parole. Parce que tes paroles sont esprit et vie. Elles apportent la vie. Elle apporte la l'espérance, elle apporte la guérison, le relèvement, la restauration. Seigneur, je crois, j'ai cette assurance qu'au travers de ta parole, tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous visiter. Je prie que, Seigneur, chacun de nous laissions pleinement le soin à l'Esprit de nous convaincre d'aller dans le bon choix, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu diras, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, je te prie, je te supplie, dans le nom de Jésus, de manifester en cet instant même ta grâce dans nos cœurs et en particulier à celui ou celle dont tu as préparer, destiner particulièrement cette parole. Nous voulons déjà nous réjouir de la moisson. Nous voulons, Seigneur, manifester cette joie de la moisson. Ta parole nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Nous voulons nous réjouir de cette joie qui vient d'en haut, que Seigneur, tu es en train d'œuvrer, d'accomplir ta promesse dans la vie d'une, de deux, de trois ou plus. Seigneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.